pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 175. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins et plein d'autres choses. Et pour ce faire, de l'autre côté du poste, j'ai un réfugié politique. Il s'appelle Benjamin François. Benji, comment ça va?
Écoute, je pense que j'ai mal choisi l'endroit pour me réfugier politiquement.
Je sais pas si je l'avais dit à l'époque d'After Eight, mais tu sais, moi j'ai des angoisses pendant les... Mais ça peut venir 5 ou 6 mois avant les élections, tu sais. Même 1 an avant les élections, je peux avoir des angoisses. Mmh. C'est des trucs qui sont liés à ma famille, à l'histoire de ma famille. Et parfois, à l'instinct de survie, si tu veux.
Ouais.
Et à un moment, je me souviens que je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je prenne un avocat et j'obtienne la double nationalité américaine et que je fuis un truc comme ça. Genre, je trouverais un truc. Et 2 mois et 1 mois après...
Et tu t'es dit ça en septembre 2016, c'est ça?
C'est bon pas calcul. Loin. C'est pas loin, c'est 2 mois après, ouais, exactement, il y a Trump qui est arrivé, je me suis dit, suis pas ton instinct sur ce coup-là, c'est pas la peine.
Ben moi, je sais pas si tu te rappelles, mais l'élection de Trump, c'était 1 semaine après que j'ai eu ma carte verte, donc j'étais un peu, ouais, voilà. Ma satisfaction, c'est qu'il n'y avait pas sa sale gueule sur la carte verte, parce que sur la carte verte, en fait, il y a une frise avec toutes les têtes de tous les présidents, et il n'y avait pas la sienne, du coup, c'était ma seule satisfaction.
Eh bien, on a les satisfactions qu'on peut, on va vous dire un truc, c'est qu'on enregistre quelques
3 heures.
Ouais,
3 heures après les résultats des européennes.
Moi, j'ai entendu les résultats.
3 heures après la dissolution aussi, il faut le rappeler.
Alors, non, moi, j'ai entendu les résultats et j'ai reçu des messages. Tu sais, pendant que je regardais le film, et normalement, je regardais.
Ah, tu regardais un film, oui.
Je regarde pas les PC. Je fais merde, il y a eu dissolution.
Et, ouais.
Et là, on a bloqué, genre, mais vraiment, on a bloqué. Bon, donc, évidemment, ça influe sur le mood, mais en même temps, on va essayer de faire un show qui soit intemporel aussi, que vous puissiez que vous puissiez l'écouter genre dans 5 ans, dans 7 ans, en rigolant peut-être, je l'espère. Et aussi parce que j'ai besoin aussi de penser à des choses qui m'importent pour essayer de positiver et surtout pour ne serait-ce que pour mon moral personnel, je l'avoue, j'ai besoin de travailler, de faire mon métier, mon métier c'est journaliste, et de parler de choses que j'aime. J'ai prévu au moins un truc que j'aime, pas trop à l'arrache, mais au moins un truc auquel je pensais depuis assez longtemps. Et je tiens à dire que Benji, il est capable de pactiser avec n'importe quel pays, puisqu'il revient du Canada, si je m'amuse.
C'est bien ça. En fait,
ils ont pas voulu de toi.
Je vais pas essayer, je t'avoue. Mais en fait, j'ai retrouvé mes parents, et plutôt que ce soit eux qui se tapent 11 heures de vol ou moi qui me tape 11 heures de vol pour les voir, on s'est dit qu'on allait se retrouver au milieu et à mi-chemin entre Paris et Los Angeles, enfin entre la France et Los Angeles. Bah, il y a le Québec, ça nous faisait à peu près 6 heures de vol à chacun, et donc du coup c'était parfait pour se retrouver. Le Québec, j'ai toujours tendance à dire en rigolant que c'est le rêve américain pour les Français feignants qui veulent pas parler anglais. Et ben ça s'est confirmé pendant que j'y étais, hein. J'ai entendu beaucoup de gens parler avec 0 accent québécois et donc des Français, surtout à Montréal, on va pas se le cacher. Mais donc voilà, j'ai visité un peu, j'ai fait le gros touriste à Montréal, à Trois-Rivières et à Québec elle-même, Québec City comme disent les Américains.
Si tu me permets, Benji, moi avant d'aller au Canada, je connaissais que 2 Français qui y étaient allés au Canada, c'était Philippe Séguin et Alain Juppé. Tu sais, quand ils se prenaient des roustes aux élections, ils allaient au Canada. Et donc, officiellement, je demande au peuple canadien...
Pardon.
Je demande au peuple canadien, maintenant, on a bientôt un homme politique dont on va vouloir se débarrasser. Est-ce que vous pouvez... On vous l'envoie et gardez-le.
Il y en a un seul, parce qu'on leur enverrait bien Manuel Valls, hein, sinon.
Putain, tu m'as volé ma vanne. Oui, je pensais à Manuel Valls, c'est bien évidemment.
Ah d'accord. Parce que, je veux dire, eux, ils nous ont envoyé Garou, donc je pense qu'on a assez souffert. Et il n'y a pas de raison, quoi. Faut un petit peu rendre l'appareil.
Alors, moi, je connaissais pas Garou, mais en fait, je sais qu'il a une chanson super populaire en karaoké qui revient tout le temps. Est-ce que tu connais Sous le vent?
Et je connais Sous le vent, mais je connais aussi la comédie musicale de Paris, la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Daniel.
Mais moi, je connaissais pas Sous le vent. Je suis passé à côté. Et quand je lis les paroles de Sous le vent et que ces gens qui chantent avec la voix comme ça pour faire que semblant qu'ils sont Garou.
Ah bah, Garou.
Nouvelle imitation, tu vois, hop.
T'étais à moitié avec Darbois qui... pas Darbois, Je sais plus comment ça s'appelle, le doubleur de Stallone.
Oui, oui, je vois très bien. À la Dorval.
Dorval, ouais, c'est ça.
Paix à son âme qui est parti cette année.
Oui.
Mais non, je suis sorti la grande voile. Et tu sais quoi, quand je vois le texte, genre, il n'y a aucune ambiguïté sur le texte. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la métaphore filée de la relation sexuelle. Et je vois tout le monde en train de chanter ça. Mais en fait, je découvre les hits de karaoké avec du retard. Je te rappelle que j'ai découvert au mariage d'un ami commun, où nous étions tous les deux, le lac du Connemara. J'étais vierge de tout lac du Connemara pendant 40 ans de ma vie, quand même.
Ouais.
Et peu de temps après, mon fils naissait, tu vois, c'est ça le...
Alors attends, et je sais pourquoi j'ai confondu avec Dorval, parce que Darbois, il a doublé Stallone dans quelques films.
Il a fait...
Qui le double dans Tango & Cash, dans Demolition Man, dans L'Expert... Et parce qu'à l'époque, Dorval était a priori en froid avec les studios. Et du coup, Demolition Man étant peut-être le film de Stallone que j'ai le plus vu, eh ben voilà, ça excuse entre guillemets ma confusion.
Alors que pour moi, Richard Darbois, c'est vraiment plutôt la voix de Batman.
C'est Schwarzenegger aussi.
Oui, mais c'est la voix de Bateau dans...
Et de Harrison Ford et de...
Mais bref, donc tu reviens du Canada.
Oui, donc je reviens du Canada, donc du Québec. Et c'était chouette, Montréal, très, très chouette ville. Alors par contre, le centre-ville, le centre, on va dire, récent de Montréal, c'est beaucoup de béton, faut pas y aller pour l'architecture, mais la vieille ville est très chouette, et puis il y a plein de petits quartiers vraiment sympas tout autour. Trois-Rivières, c'est assez mignon, mais c'est super mort dès 19h le soir en semaine. Et Québec, alors là par contre, Québec, c'était super parce que ville fortifiée, donc il y a des remparts, il y a une citadelle, il y a vraiment plein de chouettes trucs. Alors ça m'a fait me poser des questions sur comment ils font à Québec quand il fait moins 40 en hiver, parce qu'il y a quand même des pentes à je sais pas combien de pourcents qui sont archi rudes. Ça doit être mais des pistes noires, en fait. Je comprends pas bien comment ils survivent, mais on y était à la bonne période, tu vois. Il faisait pas froid, il faisait plutôt doux, et non, c'était chouette. Vraiment un super séjour, j'ai beaucoup aimé.
J'ai une passion Canada, hein. Max Donzel nous avait fait un peu le guide, puisque lui, il est moitié canadien, et du coup, on a été... en Nouvelle-Écosse et tout ça. Enfin, on a fait un peu un road trip et c'était...
Ah ouais.
J'ai que des bons souvenirs du Canada. Franchement, c'est vraiment...
Moi, c'était ma première fois.
Ah non, mais je crois qu'il y a un truc de bien-être. Tu sais, c'est comme... Moi, en plus, tu sais, je suis un faux parisien dans le sens où je suis plutôt gentil, je dis bonjour aux gens, tu vois, tout ça. C'est un pays où on salue quand on est en bagnole, tu vois. Les gens ne sont pas stress. Et ça fait un peu cliché de dire ça, tu sais, genre le stress, le truc qui tue la ville et tout. Mais en vrai, je sens au Canada, il y a moins de pression. Il y a moins la pression de la vie.
Ça, je pense que c'est comme aux US, les gens saluent en voiture dans les côtés plutôt ruraux.
Oui.
Parce que aux États-Unis, en ville, les gens ne saluent pas en voiture. Et je pense qu'à Montréal, personne ne me salue en voiture.
Ah, alors moi, à Los Angeles, tout le monde me klaxonnait parce que je ne connaissais pas la règle de tourner à
c'était
droite.
C'était pour te dire bonjour.
Non, c'était parce que je ne connaissais pas. Alors pour les gens qui nous écoutent...
Alors qu'au Québec, elle existe aussi, cette règle. Il n'y a qu'à Montréal que ce n'est pas autorisé.
Donc, tourner à droite, ça veut dire que si vous êtes au stop feu rouge...
T'es un feu rouge.
Et que vous êtes sur la ligne de droite. Et la ligne de droite, ça peut vous dire qu'il y a quatre lignes. Hein. C'est ça que ça veut dire.
C'est ça.
Vous êtes sur la ligne de droite. Vous avez le droit de tourner à droite, même si le feu est rouge.
Voilà.
Si la voie est libre, bien sûr.
Qui est une règle qui est en vigueur, a priori, aux États-Unis, dans la plupart des États et au Canada, dans la plupart des provinces.
Mais tout le monde le fait, et si tu le fais pas, tu te fais klaxonner.
Ah oui, bien sûr, parce que tu ralentis, en fait, tu bloques le trafic, tout simplement.
Comment vont tes parents ?
Bah écoute, ça a l'air d'aller. Alors, le dernier jour de notre séjour, tu sais, Daniel, j'avais raconté que je sortais de mal de dos qui m'avait fait suer pendant des semaines, puis ensuite une crise de goutte.
Ouais.
Et ben heureusement, ça allait mieux, donc j'ai pu crapahuter, marcher, parce qu'on a quand même beaucoup marché, mine de rien.
Ma meuf s'est moquée de moi, elle a dit « Vous faites un podcast de vieux, la crise de goutte. »
Ah bah complètement. Et le dernier jour de notre séjour, alors que j'aidais ma mère à descendre des escaliers, ben, je me suis tordu la cheville du pied gauche.
Ah, c'est vrai.
Donc de nouveau, je ne peux pas faire de sport, je suis dégoûté alors que je commence à y revenir. Alors bon, c'est juste une petite foulure pas méchante, ça devrait aller mieux, mais je commence à accuser un peu le coup, tu vois, c'est un peu la série noire. C'est comme si j'essayais toutes les blessures, histoire d'être tranquille, tu sais, parce que c'est comme ça que ça marche. Une fois que tu les as toutes eues, c'est bon, t'es tranquille à vie.
Ouais.
Hein, c'est comme ça que ça marche. T'es immunisé après.
Je crois, ouais. C'est une attaque ne marche pas deux fois sur un chevalier.
Exactement, donc c'est pour ça.
Et bah écoute, t'as fini pour le Canada, c'est bon ?
Écoute, j'ai fini pour le Canada.
On salue nos auditeurs au Canada. Ils sont toujours ultra affectueux. J'adore, vraiment, je n'ai que de l'amour pour le Canada.
Du coup, vu que j'étais dans l'avion, je n'ai pas vu Furiosa la semaine de sa sortie. Je l'ai vu la semaine dernière. Et est-ce qu'on transitionnerait pas sur Furiosa, qui était quand même l'événement cinéma qu'on attendait le plus, si j'en crois les blockbusters, hein ?
Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sale gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes.
Pour moi, il remonte déjà à presque à 3 semaines. Mais par contre, contrairement à beaucoup de cinéphiles, je l'ai pas vu 3 fois. Hein. Je l'ai vu qu'une seule fois.
Moi aussi, je l'ai vu une fois.
Et j'en ai parlé un peu dans Super Ciné Battle quand j'ai fait mon bilan de Cannes. Et j'allais de toute manière, je pense que je reviendrai sur Furiosa plus longuement en fin d'année quand on va devoir le classer dans le classement des blockbusters. Mais j'ai été un peu...
T'es partagé, toi, je crois. Hein.
Le mot est pas déçu. Mais il y a quelque chose qui me manquait. Peut-être que je l'attendais trop. Peut-être que la symbiose totale, musique, visuel, délirant et tout ça, ça fonctionnait mieux dans Fury Road. Je pense que Fury Road est globalement un meilleur film.
Ah, je suis d'accord. J'ai beaucoup aimé Furiosa quand même.
Mais toi, vas-y.
T'as fini, d'accord. Bah écoute, moi.
Non, mais je reviens.
Oui, ou
Si j'y pense souvent à Furiosa, donc ça veut dire que c'est pas un mauvais film.
Ah, c'est qui te reste en tête, ouais.
C'est juste que tu vois, par exemple, si en termes de plaisir brut, tu vois, j'ai vu Bad Boys 4 il y a 2 jours. Et Bad Boys 4 m'a fait hurler de rire. Enfin, il m'a provoqué quelque chose. Furiosa, j'avais pas d'enthousiasme. Je peux pas t'expliquer ça autrement que. Tu vois, j'étais pas.
D'accord.
Voilà, j'étais pas fou de Furiosa, quoi. J'étais pas furieux.
Moi, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, j'ai une relation avec Miller. Déjà, j'ai pas vu tous ses films, mais j'ai une relation avec Miller qui est très différente de celle que toi et papa pouvaient avoir. Par exemple, je déteste Mad Max 1 et Mad Max 2 me laisse complètement indifférent.
Ah, moi j'ai bien Mad Max 2 par contre.
Et j'ai même pas vu le 3 tellement j'ai pas aimé les deux d'avant. Et du coup, j'étais allé voir Fury Road Herculon, j'avais adoré Fury Road. Et ensuite, j'ai vu 3000 ans à t'attendre que j'ai détesté. Mais vraiment, je me suis fait chier du début à la fin devant ce film que je trouve profondément teubé. Et du coup, je suis allé voir Furiosa un petit peu... circonspect, tu vois, je savais pas trop à quoi m'attendre en me disant, surtout qu'en plus j'avais lu des gens qui le vendaient comme un mélange entre Fury Road et 3000 ans à t'attendre, et maintenant que j'ai vu Furiosa, je vois vraiment pas en quoi il tient 3000 ans à t'attendre. Alors je suis d'accord que Fury Road est, je pense, un meilleur film, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir devant Furiosa, en fait. Donc peut-être parce que justement j'en attendais peu.
Je crois qu'il y a un truc qui m'a vraiment énervé, moi c'est le fait de... Je crois que c'est Chris Hemsworth déjà.
C'est vrai ?
C'est-à-dire...
Moi je trouve que c'est son meilleur rôle.
Mais je trouve que... Bah, alors... Je crois qu'ils ont trop usé de la corde Chris Hemsworth rigoloman. Et je suis sûr qu'il peut jouer d'autres choses que le mec en kikinant. Et il joue une nouvelle fois un mec en kikinant. Pour moi, il jouait une émulsion de Thor, mais pas Thor 4, mais Thor 3. J'essaie d'être spécifique sur le truc que j'ai ressenti avec lui. Et en fait, c'est toujours un peu le même timing de phrasé, le même timing de vanne. Et j'ai l'impression que... C'est pas que c'est pas des films d'acteurs, quoi, tu vois, mais ce qu'il était dirigé un peu à la YOLO. Et j'ai un vrai problème avec ce mec parce que je le trouve adorable. Il a l'air d'être le mec le plus gentil du cosmos. Et globalement, je trouve qu'il jouait assez bien Thor. Il le tenait, Thor. Et le problème, c'est le moment... Il le reconnaît, d'ailleurs, Thor 4, c'était la dérive du comique. Il était trop dans l'autoparodie et tout ça. Et ça s'en ressent ici, en fait. Je le vois, il fait des vannes, genre les scènes de fuite, à un moment, quand il prend la fuite, c'est pas génial. Et j'ai un vrai problème quand il y a un antagoniste aussi comme ça, quoi, en fait.
Alors, moi, je trouvais justement qu'il était plutôt bon parce que son personnage, Dementus, est un personnage qui est très grotesque, mais qui est aussi pas pris au sérieux par ses antagonistes, et c'est un peu sa force. Parce que tu vois qu'il arrive quand même à être stratège, parce que par exemple, il va aller prendre la ville dans laquelle sont faites les munitions, alors que les autres s'attendaient pas à ce que ce soit déjà le cas, qu'il arrive à anticiper parfois des pièges, et donc c'est ça qui fait sa force, c'est que la manière dont il se comporte, parce qu'il cabotine pas mal, mine de rien, mais je trouve que dans le contexte de ce personnage, ça marche en fait. On est face à un personnage un peu grotesque, mais dans cet univers post-apocalyptique où tout est poussé à l'extrême. Et moi, j'ai vraiment trouvé que ça fonctionnait, en fait. La manière dont il était dirigé avait beaucoup de sens, considérant le personnage en lui-même.
Ouais, je te dis, peut-être qu'il faudrait que je le... Je sais pas, j'ai pas envie de le revoir. Et en même temps, je me dirais qu'il faut peut-être le revoir.
Ouais.
Mais en tout cas, j'étais pas enthousiaste.
D'accord.
Et c'est pas un problème de Anya Taylor-Joy. Je trouve qu'elle tient le film. Je trouve que...
Ouais, pareil, ouais.
Je trouve que la réalisation, elle est vraiment pas... Elle est vraiment pas en cause. Je pense que c'est vraiment un terme d'écriture. Il y a quelque chose qui me convient pas. Il y a tout ce moment où elle trouve un espèce de Mad Max un peu wish et qui lui sert de mentor. je sais pas, j'avais pas besoin de tout un genre un chapitre, tout un chapitre là-dessus, j'avais peut-être pas besoin de ça. Et c'est dommage, hein, parce que je trouve ça vraiment super bien réalisé, je trouve ça. Et genre, je suis sorti, mais genre un peu mi-figue, mi-raisin, quoi.
D'accord, ok. Bah écoute, on, si on veut parler d'écriture, tu veux parler de Sous la scène ?
Non, Sous la scène, bizarrement, il y a eu des. Je l'ai vu un peu en avance, et donc je l'ai vu avant, et donc j'avais un embargo. Et tu sais quoi ? J'ai pas trouvé ça déplaisant du tout sous la scène parce que j'en attendais pas un film grotesque, mais un film juste un peu suffisamment idiot pour sursauter mon incrédulité. Tu vois, le côté, il y a un requin dans de l'eau douce, tu vois, genre.
Ce qui est explicité dans le film, hein, ils expliquent pourquoi.
Oui, ils expliquent pourquoi et tout, genre bon. Et tu sais quoi, j'ai rien, j'adore les X-Men, j'ai rien contre la mutation. Donc, en fait, je pensais que ça allait pas très bien. En plus, je pense que. Mais vraiment, politiquement, il y a un vrai problème sur ce film. C'est-à-dire que, encore une fois, mais ça, on l'a déjà vu dans des films catastrophes américains, les écolos...
Ah bah oui.
Surtout si c'est des jolies lesbiennes, c'est toujours elles qui sont les responsables. Il y a un vrai problème d'écriture là-dessus. Hein. Entre les gentils flics, c'est pas possible, quoi.
C'est un film profondément réac entre les deux écolos wokistes lesbiennes qui sont responsables de centaines de morts et les gentils flics qui vont donner des vêtements et de la bouffe aux SDF.
Qui connaissent tous les SDF par leur prénom et tout.
Non, mais disant, voilà.
Ah, t'as vu ce qui est arrivé à Maurice, là, qui est mort? Genre, non, mais à d'autres,
c'est,
quoi.
C'est d'une connerie réactionnaire.
Je veux bien croire que, c'est pas ACAB et tout, mais ce que je veux dire, c'est que ces flics-là, j'y crois à zéro.
Bah oui, non, mais c'est pas possible, quoi.
Et pourtant, je trouve que l'acteur qui joue le flic, là, il est super.
Je pense que c'est le meilleur acteur de tout le film.
Franchement, c'est vraiment, il est, bah, on l'a vu dans quoi je l'ai vu dans le précédent, Massim Lies, je l'ai vu dans le précédent film de Xavier Gans, là, qui se déroule en Thaïlande. Ce mec-là a potentiel de, à la fois d'acting et à la fois de action star et tout ça, il est vraiment super bon. Moi, je l'ai vu aussi dans des trucs genre Netflix. C'était quoi déjà qu'il avait joué, genre, le film que j'essaie de me souvenir. Du fils de Ségolène Royal.
Oh putain.
ouais, non, mais tu sais quoi, c'était pas nul, ça s'appelait Nouveau Riche, c'était pas nul, mais il a fait avant En Passant Pécho, qu'on a vu avec Steph et qui est catastrophique, c'est terrifiant. Mais ce mec-là a vraiment, vraiment beaucoup de potentiel, il est très très beau, il est super balèze en termes de combat et tout, ça se voit, hein, il est vraiment super balèze. Et franchement, ce mec-là, j'aimerais le voir plus souvent au cinéma. Voilà, juste dit comme ça. Et je suis content qu'il filme chez Xavier Gans. Et je trouve qu'il y a un vrai truc avec ce film, c'est que je crois que les gens sont venus chercher un film qui n'est pas exactement le leur à chaque fois. Bah. C'est-à-dire les gens qui voulaient voir du nanar et du Sharknado de mes couilles. Pardon, excuse-moi, c'est pas que j'aime pas Sharknado, mais c'est que j'en ai vu trop souvent des Sharknado et des Sharknado qui essayent de faire exprès et je trouve pas ça drôle au bout d'un moment. Et qui sont venus voir du Sharknado et qui finalement, bah, c'est pas suffisamment Sharknado. Au contraire, il y a une vraie dramaturgie. Mais je trouve qu'on, par contre, je trouve que le film a des vrais money shots assez intéressants de, le moment où ils sont, plutôt que de faire genre uniquement dans la scène, ils sont un moment dans l'espèce de catacombe et tout. Et je trouve que c'est vraiment pas mal, quoi, les écolos qui se font bouffer. Enfin, bref. Alors après, idéologiquement, c'est foireux à 2000 milliards de %, mais je trouvais ça très, très drôle, quoi.
Je vais te dire ce que j'en pense.
J'ai pas encore fini, hein, mais vas-y.
Ah, d'accord. Dans les quelques trucs que j'ai aimé Valérian Idalcres, parce que qu'un beau mélange de Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse,
magnifiquement campé
par Anne-Marie Vin.
Qui joue vraiment, elle joue la Valérie Pécresse un peu d'Adi.
Même si je trouve qu'elle aurait mérité une mort un peu plus horrible parce que son personnage vraiment mérite une mort horrible dans un film pareil. Mais en revanche, le film a clivé et je comprends pourquoi il a clivé parce que tu l'as un peu dit avant, je trouve que le film ne sait pas sur quel pied danser. Parce qu'en fait, je trouve que le film est beaucoup trop premier degré sur sa première moitié jusqu'à la fameuse scène des catacombes et qu'ensuite, il est complètement second degré à partir des catacombes. Donc en fait, le truc, c'est que si le film voulait être premier degré, bah, il devient grotesque à partir des catacombes. Et si le film voulait être second degré, il est turbo-chiant jusqu'aux catacombes. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a posé problème. Avec, en prime, le discours réac. Avec, en prime, les trucs complètement débiles, genre le requin qui remonte la scène en passant par la Loire. Bon, ça, tu pourrais te dire que c'est anecdotique. Mais putain, c'est déjà difficilement excusable dans un film américain. Mais dans un film français, ça l'est encore plus. Et voilà, quoi. C'était quand même globalement une avalanche de clichés.
Ça ressemble à des idées qui ont été balancées sans relecture, sans genre C'est vraiment...
Mais c'est ça. C'est... Et il y a une avalanche de clichés avec Bérénice Bejo dont le personnage, globalement, consiste à dire « Mais c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Mais qu'est-ce qui se passe ?» Bon, à un moment, ça va, quoi.
Je crois que le meilleur qui en parlait d'entre nous, c'est évidemment Stéphane. Il disait « Ce film, c'est un immense bordel. Ça ressemble pas du tout au film que t'es venu voir. »
C'est
ça. Et à la fois, c'est un peu ça, et à la fois pas du tout. Et du coup, ça devient une espèce de film d'extrême centre.
Et ça change de ton en plein milieu, quoi. C'est vraiment bizarre.
Où tous les extrêmes peuvent se retrouver, enfin voilà. Et en fait, honnêtement, je pense que la femme politique qui est décrite dedans, qui est à la fois Anne Hidalgo, qui est à la fois Pécresse, qui est à la fois Dati, genre, ça peut être tout à la fois. Et du coup, ça devient une espèce de... De gloubi-boulga, où tu peux prendre ce que tu veux.
Voilà. Même moi, j'y ai pas pris de plaisir, en fait.
Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je trouve que la fin est vraiment chouette, quoi. Il y a vraiment un truc qui fonctionne, il y a vraiment une peur qui s'installe. Il y a, genre, ça va assez loin, en fait, je trouve, dans le délire.
Moi, le problème, c'est que je trouve que la fin est beaucoup trop débile pour le setup initial, en fait. Que j'ai rien contre une fin débile, mais j'aurais bien aimé que la première moitié du film me prépare à cette fin débile, parce que là, en l'état, c'est genre... Bon, allez, on passe full débile maintenant, on s'est assez fait chier. Et je trouve que cette rupture de ton, pour moi, ne fonctionne pas du tout.
Non, moi, j'ai trouvé ça chouette. Mais j'ai vraiment, par contre, vraiment de problèmes avec la relecture binaire des personnages. Enfin, je veux dire.
Ah, oh bah ça.
La team des gentils flics, ils sont tous tellement gentils, c'est pas possible, quoi. Genre, ils sont au-delà du réel, tandis que les activistes, ils sont vraiment tellement bêtes. Mais ils sont bêtes, comme même dans les films de. Les films catastrophes, les...
Même dans les Michael Bay, ils sont pas aussi bêtes.
Ouais, c'est vraiment... Tu sais, en général, c'est pourtant eux hein, qui font tout foirer. Et eux, ils sont catastrophiques, quoi. Mais voilà, c'est un film un peu très ambigu, mais pas du tout nul, comme j'ai pu le lire, pour moi, en tout cas. Je trouve ça pas du tout nul, mais par contre, je trouve que ça fait une espèce d'objet. Je sais pas à qui ça s'adresse. Je sais pas qui peut aimer, en fait, ce film, si ce n'est, par contre, à l'étranger, s'ils ont pas le degré de...
Ah, les Américains ont beaucoup aimé, hein. C'est incompréhensible. Hein.
S'ils n'ont pas le degré de lecture politique qu'on peut en avoir, et Dieu seul sait s'il y en a dans ce film-là.
Surtout qu'en plus, Valérian Idalcrest, ils ne comprennent pas, quoi. Ils n'ont pas la référence, donc...
Ah non, c'est sûr. Mais par contre, Anne-Marie Vin est extraordinaire dans ce film-là.
Ah oui, elle est formidable. Donc tu vois, je retiens Anne-Marie Vin et 2-3 morts à ses gauleries. Je dois quand même avouer que le requin qui fait bondir le canot dans lequel sont les keufs à plusieurs mètres, j'ai eu un éclat de rire.
Ouais.
Et puis bon, il y a quand même un personnage... à la fois youtubeur, animateur télé, qui à un moment se fait boulotter, et ça, bon, c'était réjouissant, mais...
Ben oui, non, mais il faut ce genre-là. Et honnêtement, je trouve que visuellement, c'est vraiment joli. Je trouve que visuellement, ça a la patate par rapport à ce qu'il a comme budget. Alors, c'est le budget Netflix, c'est beaucoup plus cher que ce que tu peux penser, mais c'est pas non plus un film américain.
Mais tu vois, il y a tellement de trucs, genre...
Mais je suis persuadé que ça sera mieux que Twisters pluriel. Hein.
Alors ça, c'est pas impossible. Mais il y a des trucs, pour finir sur Sous la scène, au tout début, quand Bérénice Bejo se fait tirer en profondeur par le requin, et tu vois ses tympans éclater, et ensuite, ça n'a plus aucune importance. On sait pas s'ils ont magiquement régénéré façon piccolo, on sait pas si elle a subi une opération, on sait pas si elle porte un appareil auditif, mais genre, ça t'est montré, genre, ah oui, c'est vrai, elle est allée en profondeur, faudrait qu'on montre quand même que ça a un impact sur son corps, et ensuite, plus rien. Mais là, tu te dis, mais est-ce que c'est une occasion manquée? Est-ce que c'est un truc auquel ils ont pensé à la dernière minute, du coup, ils ont rajouté du sang en post-prod? Je me pose encore la question, et il y a plusieurs trucs comme ça dans le film qui m'ont fait poser cette question, en fait.
Ouais, écoute, je laisse les gens... En tout cas, les gens peuvent aller le voir, c'est sur Netflix.
Ouais.
C'était ta reco, donc... bah écoute, on peut... super. After Eight, c'est le podcast, top.
Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Ranger mes chaussettes, par exemple.
Est-ce que tu m'autoriserais à parler un peu politique?
Bien sûr.
C'est la fin d'une ère de comics incroyable qui s'est arrêtée cette semaine. On en avait beaucoup parlé en 99. Putain, je me vieillis tout seul. En 2019.
Il n'y a pas si longtemps que ça.
En 2019, quand est sorti House of X et Power of Ten. Un comics managé par Jonathan Hickman, qui ensuite a managé tout un univers entier, c'est-à-dire celui des X-Men. Il était à la fois l'éditeur en chef. Et il est resté éditeur en chef pendant au moins 2 ans, voire 3 ans, et pour avant ensuite partir. Et ça a continué encore un an comme ça, mais jusqu'à ce que, évidemment, comme le monde Marvel arrivent en général à la fin d'un cycle, ils enlèvent la prise de courant et tout s'arrête. Tout ce qui a été fait s'arrête, évidemment. Et on va reprendre, à partir de le mois prochain, on va reprendre les X-Men dans une école. Enfin, le truc qu'on connaît, quoi. Enfin,
Status quo, quoi.
Le statu quo, ils vont refaire du baseball dans le jardin et tout. Un truc que j'adore aussi, mais qui y était fondamentalement absent. Alors, je vais juste revenir en deux mots sur ce que House of X est. Et en fait, pourquoi j'en parle maintenant, c'est que d'abord, ça se termine. Et j'ai vu beaucoup de tweets de gens malheureux parce que ça avait apporté beaucoup de bonheur aux gens durant ces 3-4 années. Vraiment, ça a apporté beaucoup de positivité et surtout de nouveautés. Et je crois, de ma vie de lecteur de comics, j'ai jamais eu un moment aussi enthousiasmant en termes de ce qu'on pouvait faire avec le média, jusqu'à quelles limites on pouvait l'emmener. Et je vais essayer d'en parler en parlant des bons moments. Tu sais, que je parle comme si c'était quelqu'un qui vient de décéder, que je parle des bons moments que j'ai vécu avec.
Ouais, ouais.
Et donc, il faut juste remettre dans le contexte, en sachant que tu m'autorises un tout petit peu à spoiler le début, parce que, évidemment, ça remonte à il y a 4 ans, et que, on avait déjà parlé du début à l'époque. Mais en gros, Moira MacTaggert, et qui compensait humaine depuis le début, est une mutante. Et son pouvoir de mutant, c'est de pouvoir revivre à chaque fois la même vie, de revoir une nouvelle vie, et à chaque fois, elle a créé en fait un monde à chaque fois plus parfait. Et au bout de la 10e vie où elle en était, ou de la 9e, ou de la 10e, elle est allée voir Xavier et Magneto en leur disant « Lisez mon esprit, voilà toutes les alternatives que vous avez. » Et du coup, ils ont été pris sur le choc, et du coup, ils ont fait « Ok, on va essayer de faire la meilleure version du monde dans lequel nous vivons. » Et c'est comme ça qu'est née l'ère Krakoa. Alors, qu'est-ce que l'ère Krakoa ? Krakoa est un méchant dans le monde Marvel. C'est une île qui est mutante et vivante. Sauf que maintenant, elle est gentille. Et c'est une île sur laquelle les mutants vont tous venir vivre et une nation va se créer. Et elle est dirigée par Magneto, par Xavier. Et aussi par d'autres gens, je vais y revenir bientôt. J'établis les bases, hein, Benji, pour que les gens comprennent.
Oui, oui, oui. Et même pour rappeler les bases, moi j'étais enthousiaste après House of X Power of 10.
Oui, c'est ce que tu avais dit à l'époque, c'est que tu étais enthousiaste.
Et ça s'est écroulé très très vite après, voilà, ça s'est écroulé très très vite après.
T'as arrêté au numéro 3.
Toi t'as continué, ouais.
Je vais dire les choses qui sont importantes à mes yeux, qui fonctionnaient. Après, évidemment, quand Hickman est parti, c'était plus la même salade.
Ah, j'imagine, ouais.
Donc alors... L'important de cette île, c'est que tous les mutants qui viennent y vivre deviennent citoyens de Krakoa, et donc il y a un jeu avec l'ONU et tout ça, et ils ont une immunité totale. Même les pires mutants, même Apocalypse, Exodus, même Sinister, les pires mutants, même Mystique, même tout, quel que soit qui que tu aies été, tu as droit à une immunité là-dedans. Et leur astuce, c'était aussi de créer une espèce de médoc qui peuvent donner à des humains et pour leur dire, c'est un peu la carotte, reconnaissez notre pays et nous, on va vous donner le médoc pour vous soigner de votre cancer, de toutes vos maladies. C'était la carotte. En gros, les mutants ont accepté leur statut de homo supérieur, ce qu'ils sont, et ils se sont dit, on va créer une vraie nation par nous-mêmes. Et il y a un autre truc très fonctionnel qui va apparaître dans le lore. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Et c'est The Five, c'est 5 mutants qui travaillent en unisson pour recréer la vie. C'est-à-dire qu'à partir d'une sauvegarde de quelqu'un, une sauvegarde de sa psyché, faite par Xavier ou un autre télépathe, on peut recréer quelqu'un qui vient de mourir. C'est-à-dire on sauvegarde Benjamin et on recrée son corps artificiellement grâce à ces 5 mutants qui travaillent en unisson. Et du coup, on le fait revivre. Conséquence 1, ça veut dire qu'il n'y a plus de morts dans le monde des mutants. Et 2, ça veut dire que les morts d'avant, si on a une sauvegarde, on peut les faire renaître. Et ça a fait des trucs assez étonnants, comme les deux Thunderbirds, les deux frères qui ne se sont jamais vraiment connus et qui arrivent à coexister. Enfin, vraiment, il y a eu des moments assez émouvants. Le processus a une limite, et on va le voir, c'est qu'il faut que les 5 soient là. Et on a vu aussi qu'on peut inoculer des virus dans le processus. Enfin, il y a des limites dans le système, et c'est ça qui va être, un des points faibles de ce truc-là. Et pour gouverner tout ça, et ça, c'est le truc le plus important, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le Quiet Council. Alors, le Quiet Council, c'est une unité de 10 personnes qui dirige le monde des mutants. Globalement, les postes à pourvoir sont limités. Il n'y en a que 10. Et il y a printemps, été, automne, hiver. Et du coup, ils invitent Xavier Magneto, Apocalypse, ils invitent tous les autres, plein d'autres mutants, qui sont joués à gentils, qui soient méchants. Et donc, on se retrouve avec Storm, avec Jean Grey, mais aussi avec Sinister, avec Mystique, avec Emma Frost, avec Sébastien Cho. Enfin, voilà. Et on se retrouve avec des méchants qui dirigent, mais qui ont fait pacte d'allégeance avec ce pays. Il faut imaginer que tous les gens d'une même nation, d'un même pays, d'une même nationalité s'unissent pour faire un monde meilleur. C'est vraiment ça, hein, l'idée de base. Et en plus, le Quiet Council a quelques capitaines, dont Cyclops, évidemment. C'est-à-dire des gens qui sont là pour faire respecter la loi. Et la loi dit on ne doit pas tuer d'humains. Voilà, c'est ça. Il y a trois lois très précises. Et là, alors voilà comment se déroule ces nations. Et c'est beaucoup d'idées qui arrivent quand même pour tout révolutionner. Parce que ça a remis toutes les choses, toutes les cartes à plat sur le monde des X-Men. Et même sur le monde des relations entre les X-Men et les autres super-héros, quoi. Parce qu'ils sont vus aussi comme quelque chose d'hégémonique, comme quelque chose d'une montée en puissance. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Bon, voilà, j'ai résumé un peu ce qu'était Krakoa. Maintenant, évidemment, ça s'est arrêté parce que ça devait s'arrêter. Parce que les choses, quand t'as des idées aussi fortes, tu peux pas tenir aussi longtemps. Et il faut garder toujours un même capitaine. Ce mec qui a imaginé ça, et Hickman, au bout d'un moment, il est parti sans doute parce que, il l'a pas dit comme ça, mais sans doute parce que Marvel voulait faire encore plein de trucs avec ça. Et voulait, alors que Hickman, il avait un plan pour tout arrêter. Et bon, ils lui ont enlevé un peu son jouet.
Et puis, est-ce que c'est pas parce que aussi, un peu, ça perd complètement le lecteur occasionnel, ce genre de truc, en fait, quand ça dure trop longtemps?
Ah bah, non, parce qu'il y a plein de gens qui sont venus lire ça, parce que c'était assez révolutionnaire, ce qu'on leur servait, en tout cas. Alors, bien sûr, c'est quelque chose d'assez pointu.
Ouais, et je peux pas m'empêcher de me dire que pour quelqu'un qui connaît pas forcément si bien que ça les X-Men, au final, ce rebattage de cartes n'a pas exactement la même importance, quoi. Genre, Moira MacTaggert, pour eux, c'est personne, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Alors certes, Moira MacTaggert n'est personne, mais elle a été jouée par Rose Byrne dans les films, donc peut-être
c'est vrai, c'est vrai.
Bah, alors c'est vrai, peut-être qu'il y a plein d'éléments comme ça, et peut-être que, tu sais, il y a les gens qui ont l'habitude de voir que Wolverine, et que tout d'un coup, ils voient plein d'autres mutants, j'en sais rien. Je peux pas me mettre à la place des gens, mais par contre, je peux vous dire quand un comic, c'est intéressant. Et là, il y a vraiment quelque chose, une vraie dynamique, vraiment quelque chose d'assez fort qui était en train de se créer. Et c'est marrant parce qu'en fait, sans le dire, Hickman a créé des trucs. Par exemple, le comics X-Men, il y a X-Men a reparti du numéro 1. Mais en fait, en vrai, comics X-Men, c'était le solo book de la famille Summers, quoi. C'est-à-dire, il y avait Scott Summers, il y avait ses enfants, il se balade dans le monde et tout. Enfin, c'était assez rigolo. Et au fur et à mesure, il y a eu des events. Il y a eu un event qui s'appelait Ten of Swords. Ou X of Swords, je sais pas comment le prononcer, mais en gros, où c'était un crossover et ils doivent tous récupérer des épées magiques pour aller se battre dans un autre monde. Et moi, je vais te dire ce qui m'a plu dans tout ça. Je vais faire par points. Déjà, moi, en tant que fan, il y a un des personnages qui me paraît le plus important de mon, au moins des New Mutants, mais au moins de mon imaginaire d'ado, c'est Douglas Ramsey. Douglas Ramsey, c'est Cypher. Et Cypher a un pouvoir uniquement intellectuel. Et il n'a pas de pouvoir physique. Il ne sait pas se battre. Il est plutôt nul. Et ben par contre, son pouvoir, c'est de pouvoir comprendre n'importe quel langage. Et il devient le traducteur officiel de Krakoa. C'est-à-dire Krakoa, l'île vivante, ne parle pas notre langue. Et c'est lui qui sert d'officier de liaison, en fait, avec Krakoa. Et le fait qu'il revienne au centre de l'univers Marvel, je trouve ça brillantissime. C'est un mutant qui méritait d'avoir sa place en grand.
Mais tu vois, rien que ça, Cypher, ça reste un mutant pas super connu, quoi. Ça reste un personnage assez secondaire.
C'est un mutant qui est mort au moins une fois, sinon deux. Mais le voir prendre cette place et tout, c'est assez intéressant. X-Force, par exemple, est devenu en gros la CIA de
Krakoa.
De Krakoa, parce qu'ils allaient faire des covert action teams dans le monde entier. En général, eux, ils s'autorisaient à tuer des gens. Mais il y a d'autres choses qui naissent. Et là, par exemple, ça, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment touché. C'est Crucible. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, ils deviennent fous, les mutants, parce que ce qui se passe, c'est que il y a des mutants qui ont perdu leur pouvoir. Et dans ce cas-là, ils affrontent en duel, là, dans l'occurrence, dans ce numéro-là, c'est le X-Men numéro 7, je crois, ils affrontent Apocalypse. En duel singulier à l'épée, t'as aucune chance. Genre, t'as pas de pouvoir, t'as Apocalypse en face de toi, tu n'as aucune chance. Et en gros, c'est un duel à mort, c'est un sacrifice, et il te tue, et en fait, il te fait renaître, ils te font renaître avec tes pouvoirs. Et c'est un rite qui s'appelle Crucible, et t'as Cyclops qui regarde ça et il dit c'est vraiment chelou ce qu'on est en train de faire. T'as Nightcrawler qui dit peut-être que c'est le moment de créer une nouvelle religion. Et en fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de créer une religion de mutants. Et moi, ça m'avait pas autant frappé que depuis que j'ai lu des gens faire des think pieces là-dessus. Parce que évidemment, la métaphore de mourir et renaître, de devenir, tu sais, il prend, c'est une des sœurs Guffrey, donc la quatrième sœur ou quatrième enfant Guffrey, tu sais, c'est une longue famille, hein, de les Guffrey, Cannonball. Elle s'appelle Melody Guffrey et il lui dit, écoute, maintenant, ils ont cru que tu n'étais rien et maintenant tu peux être toi-même, montre-leur qui tu es vraiment. Et évidemment, tu penses à la transidentité. Et j'ai lu des think pieces écrites par des trans qui disaient, écoute, je me suis complètement reconnu dans ce truc et Apocalypse a complètement changé de sens et tout. Et je me suis dit, putain, en fait, Hickman avait trouvé un truc qui parle aux gens, en fait, qui parle vraiment aux gens. Et donc, ce numéro-là en particulier, je le recommande. Il y a, je pense qu'un des autres aspects qui est vraiment important, c'est que Mystique et Destiny sont devenus officiellement un couple. C'est-à-dire que d'abord Destiny revient à la vie, elle était restée morte quand même. Elle était morte depuis que j'avais 16 ans, donc ça fait quand même un bout de temps. C'est un débutant qui est resté le plus mort longtemps. Et Destiny, son pouvoir, c'est que c'est une précog, elle arrive à voir le futur. Et donc, Moira MacTaggert ne la voit pas d'un bon œil, mais bon, à un moment, elle revient à la vie. Et leur couple est maintenant avéré. Et c'était un truc qui était suggéré à l'époque par Chris Claremont quand Day of Future Past arrive et que Destiny arrive. Et bon, 1980, c'était pas évident de montrer un couple lesbien. Et genre, tout d'un coup...
Puis, ce qui est compliqué aussi, c'est que Destiny a vraiment l'apparence d'une vieille femme, alors que Mystique, même si elle a le même âge, elle vieillit pas, quoi.
Oui, mais quand elle revit, Destiny revient en jeune.
Ah, d'accord.
Et c'est ça le truc. C'est vraiment un truc très, très marquant. Et le fait que elles toutes les deux, c'est quand même une entité super forte dans le monde Marvel.
Ah bah oui.
Il y a un moment qui, pour moi...
C'est un power couple.
Et je trouve que c'est génial de les avoir réunies et d'en avoir fait quelque chose, quoi. Elles ont vraiment une importance dans ce monde-là. Mm-hmm. Pour moi, il y a un autre moment qui est vraiment ahurissant. C'est le moment de ce qu'on appelle des Children of the Vault. Alors, Children of the Vault, c'est pas des mutants, mais c'est des post-humains qui ont des pouvoirs et qui sont très, très puissants. Et ils ont été créés pour s'opposer aux X-Men, et dans certaines cultures alternatives, c'est eux qui dominent le monde, ils tuent tout le monde et tout ça. Et ils vivent dans une espèce de vault, donc dans une espèce de... C'est pas une prison, mais dans une espèce de monde parallèle, où le temps découle différemment. Tu vois voir où je veux en venir, évidemment. Mmh. Et c'est pour moi un des highlights émotionnels de tout cet arc. Et à un moment, il faut y aller. Les X-Men se disent, il faut qu'on y aille, mais si on y va tous, on va mourir et tout. Et donc, ils envoient... alors, tu parlais d'un power couple. Là, ils envoient un power trouble. Ils envoient Wolverine, et pas Wolverine que tu connais, mais Laura Finney, donc X-23.
X-23, oui.
Qui est sa fille, la fille de Wolverine.
Ouais.
Ils envoient Sync, que tu connais peut-être, dont le pouvoir est de se synchroniser sur tes pouvoirs et de les reproduire. Et ils envoient Darwin, qui est un mutant et qui n'est pas très connu, mais justement, son pouvoir, c'est de s'adapter à toutes les situations. Et c'est vraiment le super adaptoïde. Il s'adapte. C'est-à-dire, il peut survivre à n'importe quel... À la chaleur, au froid. Voilà, son truc, c'est la survie, c'est son pouvoir. Et du coup, en envoyant les trois en unisson, donc le pouvoir régénérateur, tu peux t'imaginer, plus l'adaptabilité, plus la synchronicité, ils sont une espèce de trio immortel. Et en fait, ils rentrent dans cette vault et ils y passent genre 1500 ans. Dehors, ils passent 3 jours, mais ils y restent 1500. Et techniquement, cette Wolverine-là a été la Wolverine qui a été le plus longtemps de l'histoire, en fait, puisqu'elle a été plus de 1500. Elle dépasse Wolverine qu'on connaît. Et Sick a été du coup Wolverine, puisqu'il a copié ses pouvoirs pendant un millénaire ou plus.
Ouais.
Et évidemment, je ne révélerai pas la fin de ce truc, mais c'est assez touchant, comme toutes les histoires de temps décalé. Mais vraiment, je pense que ça, c'était le highlight de cette histoire. Et alors après, il y a encore plein d'autres choses. Je pourrais te parler des concepts des chiméras, c'est-à-dire que dans le futur où les mutants, parce qu'il y a des futurs où les mutants pourraient perdre. Hickman laisse sous-entendre que là, non, en fait, il y a des futurs où les mutants peuvent survivre. Mais dans la plupart où ils sont oppressés, ils créent des chiméras, c'est-à-dire des mutants croisés entre tous leurs pouvoirs qui deviennent des espèces de super mutants. Il y en a une qui survit et qui s'appelle Rasputin 4 et elle a évidemment les pouvoirs de Colossus, mais aussi de Nightcrawler et de plein d'autres et tout. Et c'est plutôt intéressant. Et c'est vraiment un concept assez intéressant, une espèce de qu'est-ce que c'est qu'un mutant dans le futur? Est-ce que c'est le croisement de tous? Est-ce que c'est les enfants de Sinister? Bref, il y a plein de concepts passionnants. Et alors, bien sûr, je pourrais te parler aussi des troupes. Ça, c'est vraiment le truc qui a beaucoup fait rigoler. Mais que, en fait, Wolverine, Cyclops et Jean Grey, en fait, c'était un troupe. Mais voilà, c'était dit et pas dit en même temps. Maintenant, ils vont bien sûr faire comme si rien n'était. Et puis moi, ce que j'ai vraiment adoré comme passage, c'est que Storm est devenue clairement une déesse. Tu sais, elle passe son temps à dire... Power of a Goddess, c'est tout ça. Là, elle a vraiment le pouvoir d'une déesse, puisque en utilisant ses pouvoirs en unisson avec Iceman, Magneto et quelques autres mutants, ils ont terraformé Mars. Et ça, c'est le truc le plus important peut-être de ce qui arrive dans peut-être tout ce run, c'est qu'ils terraforment Mars pour le rendre vivant. Elle ramène l'eau, évidemment. Magneto, il ramène le fer et Iceman, évidemment, la glace et tout. Et du coup, Mars devient une terre vivable et qui devient une terre d'accueil pour un certain nombre de mutants. Et Storm va devenir leur reine, en fait, même si elle refuse toute forme de d'ordre royal ou même de direction. Elle va devenir, de fait, la chef de tout ça. Et Benji, je sais pas si tu veux, t'en veux encore d'autres, mais...
Vas-y.
Mais ça m'a donné, à mon avis, un des combats les plus cools de Magneto, puisque Magneto se bat contre un Célestiel, donc il a très peu de chances de gagner. Mais il se bat contre un Célestiel, il se fait arracher le cœur par l'équivalent, on va dire, l'équivalent de Thanos. Et quand même, grâce à ses pouvoirs magnétiques, il maintient son cœur dans sa poitrine et tant qu'il utilise son pouvoir, il reste vivant. Et je pense que c'est un des moments les plus badass que Magneto ait jamais eu. Pourtant, il en a eu, hein, mais là, tout d'un coup, il devient vraiment... ça fait vibrer mon cœur de fan, quoi. Il y a eu des grands moments. Il y a eu Kitty Pryde qui prend la voix de la piraterie. Il y a eu les Hellions qui sont une espèce de Inglorious Bastards, mais un peu attardés, mais menés par Alex Summers, donc j'ai un peu de la tendresse. Il y a vraiment beaucoup de choses, et je sais pas si j'ai tout pu énumérer ce que j'aimais, en tout cas, là, dans ce truc. Mais comme tous les gens qui témoignent aujourd'hui de la fin de Krakoa, j'ai l'impression d'avoir vécu un truc super qui s'est terminé en eau de boudin, parce que c'est vraiment la fin, ça fait vraiment pitié, hein, c'est vraiment pas bien. Même Karen Gillan qui fait le mieux possible, tu sens que ça a vraiment été fait à la va-vite, tu sens que ça a été fait à partir de quelques idées vagues de Hickman. Et voilà, il fallait qu'ils finissent leur truc. Écoute, je sais pas si je revivrai encore un truc aussi enthousiasmant, parce que c'était vraiment enthousiasmant. Mais en tout cas, j'ai pris plaisir. Et je pense que je le relirai à froid dans un an, comme j'ai relu les précédents rôles d'Hickman. Hickman n'est pas le meilleur auteur de BD US, à mon avis, loin s'en faut. Mais en tout cas, il arrive à trouver des trucs vraiment enthousiasmants qui me donnent envie de m'accrocher, et surtout, c'est assez exigeant. Il fait tout d'un coup des graphes, et tout d'un coup, il y a des frises chronologiques et tout. Mais ça ajoute tellement de profondeur à ce que tu lis que c'est vrai. Il n'y a pas d'équivalent, même en franco-belge, même au Japon. Je crois que c'est vraiment un cas unique en matière d'écriture de BD. Je regrette juste que maintenant, j'ai l'impression qu'une fois qu'il a fait un truc aussi gros, il n'y aura plus jamais quelque chose de aussi planifié en avance, aussi calculé. Je crois que c'était un one shot. C'était un one shot de 4 ans et ça s'est arrêté là.
Très bien. On sent que t'en avais gros sur la patate. Moi, je vois pas quoi ajouter parce que, comme je te l'ai dit, moi, j'ai arrêté très, 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 très vite parce que je sentais que ça allait pas être ma cam.
Mais il y avait beaucoup à lire et, même pour les reading order, c'est un peu compliqué parce qu'il y a ceux qui disent le canon, c'est que Hickman.
Oui, voilà.
Ou alors, c'est tous les trucs.
Tu parles de quelle série en particulier? Juste Uncanny X-Men ou tu comptes certains tie-in, genre Marauders et tout?
Bah, il y a pas Uncanny X-Men, il y a.
Ah oui, c'est X-Men tout court, pardon.
Moi, je dis, il y a des reading order qui est Hickman et plus, c'est-à-dire Hickman et les trucs intéressants.
Ouais.
Et donc, je conseille ce reading order. Moi, j'ai Marvel Limited, donc je peux relire ça quand je veux, l'ordre que je veux. Je me regarde lire l'ordre, je regarde et tout. Écoute, moi, ce que je recommanderais, plutôt que de lire ça si vous voulez pas affronter un truc qui est quand même assez mastoc dans le lore de Marvel et tout ça... Et qui est trop compliqué pour que quelqu'un d'autre le fasse. Hein. C'est pour ça qu'ils ont arrêté. C'est la même chose que pour Grant Morrison. Hein. Mm. Quand c'est trop pointu, les mecs arrêtent très vite. Ils reviennent à faire du baseball dans la cour de Gray Malkin. Mais ce que je recommanderais aux gens, plutôt que de lire ça, c'est de lire le Fantastic Four de Hickman. C'est dispo en français, en gros volume et tout. Et je pense que c'est beaucoup plus accessible dans le sens où il n'y a vraiment que 4 personnages centraux, 6 en comptant les enfants, et c'est une famille, et ça parle de choses vraiment de l'ordre de la famille, de l'ordre de qu'est-ce que c'est que des parents fantastiques ou pas. Et voilà, franchement, je pense que c'est le meilleur point d'accès pour l'œuvre d'Hickman, c'est de lire Fantastic Four plus que Avengers, parce qu'il a fait Avengers, il a révolutionné Avengers, et d'ailleurs, on le voit, le Marvel et le MCU, ils essayent de puiser là-dedans, mais quand t'as trop d'idées affûtées comme ça, ça rend rien à l'écran, quoi.
Bah, oui. Voilà, ouais, moi, je vois pas qu'à ajouter. Écoute, tu as tout dit.
Oh, c'est de ce côté qu'il faut regarder.
Oyez, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi?
Casse-toi, sale gominée.
Tu voulais pas nous parler de Donald, peut-être?
Si, je veux parler de Donald parce qu'aujourd'hui, dimanche, c'est le 90e anniversaire de la première apparition de Donald. On est le 9 juin 2024. Sa première apparition, c'était le 9 juin 1934. Et Donald, c'est mon personnage de la vie, c'est mon personnage de fiction préféré. Pour l'occasion, Walt Disney Animation Studios a sorti un nouveau court-métrage avec Donald, qui est disponible dans son intégralité. Alors, non seulement sur Disney+, mais aussi sur YouTube. Donc, faites chauffer les adblockers si vous n'avez pas Disney+, et que vous voulez regarder sur YouTube. Ça dure 2 minutes et des brouettes. Et en l'espace de 2 minutes, j'ai franchement ri 3 fois. J'ai eu le sourire tout du long. Voilà, c'est du Donald, c'est du classique, c'est exactement ce que je voulais voir. Et c'était merveilleux, donc je trouve que c'est une belle célébration pour les 90 ans du personnage. Et c'est un court-métrage qui a été supervisé par une personne qui s'appelle Mark N, qui est un animateur historique du studio Disney Animation, qui prend sa retraite cette année et qui donc va être prochainement reconnu en tant que Disney Legend. Il a passé 43 ans au studio. Et il était le lead animateur d'Ariel dans La Petite Sirène, de Belle dans la Belle et la Bête, de Jasmine dans Aladdin. Enfin voilà, c'est un type qu'on a quand même sous la pédale, c'est un mec qui a quand même pas mal bossé. Un des premiers trucs sur lesquels il a bossé quand il est arrivé au studio, c'était le Noël de Mickey, qui est, je crois, un court que beaucoup de gens apprécient. Donc voilà, c'est un bel hommage à un personnage légendaire par un animateur légendaire.
Est-ce que c'est regardable par un enfant?
Ah, complètement. Ah oui, non, mais ton fils, il va adorer. Bon, tu peux y aller.
Oui, parce que là, en ce moment, il est sur un truc avec un chaton qu'il voit sur Netflix, c'est une espèce de chat. C'est nul, ça parle ni français ni russe. Tu y gagnes rien.
Ah merde.
C'est genre, j'aime pas du tout.
C'est Donald qui parle anglais avec la voix de Clarence Nash, qui était la première voix de Donald. Donc là, c'est vraiment un hommage. Je pense qu'ils ont repris les vieux enregistrements de Clarence Nash qu'ils ont utilisé pour ce film. Ils n'ont pas utilisé Tony Anselmo, qui est l'actuel doubleur de Donald. Donc ouais, non, c'est super. Voilà, okay, c'est tout ce que j'ai à dire.
Et j'ai le droit sur Disney+. Hein.
C'est sur Disney+, et YouTube.
Sans VPN.
Ça s'appelle DIY Duck. Okay. Do it yourself Duck.
Ah, oh, ça a l'air bien.
Et c'est Donald qui fait du bricolage. Écoute, je ne peux pas te le vendre mieux que ça.
C'est ta dernière chance de laisser tomber.
Tu déconnes ? On est à 5 contre 1.
C'est 3 contre 1.
Mais comment tu comptes ?
Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu.
On n'a pas parlé de jeux vidéo, du coup.
Alors, on n'a pas parlé de jeux vidéo, je peux en parler vite fait.
Parce que les gens nous attendent sur l'actu jeux vidéo et...
tu veux le dire ? Les gens qui nous attendent sur l'actu jeux vidéo du Summer Game Fest, le problème, c'est que moi, j'en ai rien à cirer, j'ai rien regardé. Je me contenterai d'écouter les comptes rendus d'Origami ou de les lire dans JV ou dans Canard PC, mais j'ai rien regardé.
Et Sumimasen, il n'y a pas assez de trucs japonais pour nous, en fait.
Et c'est ce que je me disais, Sumimasen, je pense que vous n'allez pas beaucoup en parler non plus.
Non, mais il y a des confirmations de date pour nous, mais sinon, il n'y a rien d'annoncé.
Ouais.
Par contre, j'ai vu quelques annonces de loin, et tu sais, il y a le nouveau jeu par l'équipe de mecs de Dead Cells. Donc
Ah oui, qui a l'air super, mais c'est encore un roguelite.
Ouais, mais moi je suis pas contre. Hein.
Ah oui, je suis partant, mais j'ai vu des gens déçus que ce soit encore un roguelite. Moi je dis bah c'est ce qu'ils savent faire, donc c'est bien qu'ils fassent ce qu'ils savent faire.
Pourquoi tu te bloquerais il y avait quelques jeux comme ça, enfin, mais surtout des trucs indés. Voilà, il y avait vraiment des. Il y avait j'ai manqué. Il y avait la conférence Xbox aujourd'hui et moi j'étais là genre.
Ils ont annoncé un nouveau Doom, alors je suis toujours preneur, mais sinon pour le reste j'en avais rien à foutre, ouais.
Moi je regardais la finale du tennis, si tu veux, genre je sais pas pourquoi, genre je disais bon non, la finale du tennis sera plus rigolo.
Non, la seule annonce qui m'intéressait c'est la saison 2 de Street Fighter 6, je sais pas si t'as vu, il y a quand même eu sur 4 persos annoncés, il y en a 2 qui sont des persos SNK. Voilà.
Ouais, et ben pourquoi pas.
Et je trouve ça bah moi ça me dérange pas, moi ça fait presque 20 ans que j'attends Capcom versus SNK 3. Donc si tu veux, s'il y a pas de Capcom versus SNK 3 et que le plus proche qu'on est, c'est des persos de KOF dans Street Fighter, je prends. Hein.
Ouais, bah voilà, c'est un peu t'es un peu obligé quoi.
Voilà.
Par contre, ça laisse préjuger de plein de choses intéressantes sur pour le TGS, donc c'est cool pour nous quoi.
Bah oui, bah tu vois par exemple le TGS, c'est un truc que je suivrai avec Sumimasen, ouais. Mais là, pour le coup, le Summer Game Fest. Puis en plus, j'ai pas envie de filer de la visibilité à ce connard Geoff Keighley, donc voilà.
Ah, moi, je trouve ça bizarre parce qu'ils ont quand même fait tout leur truc en disant « Ouais, on va annoncer des gros trucs. » Et au bout d'un moment, ils ont dit « Ouais, finalement, on n'annonce rien de super. » Alors, enfin, il y aura pas de super trailer, gros reveal et tout ça. Donc, je trouve ça bizarre en termes de communication de dire que finalement, t'as rien de super à annoncer. Mais en même temps... Il y a tout ce truc qu'on leur a reproché pendant des années de rien dire sur l'industrie. Et là, ils l'ouvrent en disant « Ah là là, les malheureux de cette année qui a été vraiment très dure pour l'industrie et tout. » Il a essayé de faire un message ultra positif. Mais j'avais l'impression que c'était quand même un message un peu pour se dédouaner. Parce qu'il a pas pointé de doigt. Et les plus gros éditeurs qui licenciaient, à savoir Sony, Microsoft et tout ça... genre pas un mot pour dire que c'est eux et qu'il y a un vrai souci et tout ça. Donc je trouvais que ça faisait un peu le discours pour se dédouaner. Et alors pour moi le principal reproche, c'est que je regardais la vidéo d'intro, la vidéo d'annonce là, enfin l'ouverture, j'ai quand même regardé l'ouverture, et il y avait pas de coupure entre pub et trailer. Et il y a des moments où je disais mais c'est un trailer ça ou c'est une pub? Et tu m'étonnes qu'il fait payer ça 250 000 dollars à chaque pub. C'est que si t'as pas de coupure entre la pub et le trailer, parce que au moins au football américain, tu vois quand c'est pas un terrain de football américain.
Ouais.
Mais tu vois quand tu vois un mec qui est en train de se bourrer la gueule ou machin truc, tu comprends que c'est une pub. Là, t'as aucun moyen de savoir parce que c'est un trailer. Et parfois, il revenait sur le plateau et il faisait le commentaire sur une pub. Et c'est pas, je pense que c'est pas. C'est pas bien, c'est pas les bonnes méthodes. Enfin, je sais pas si.
Bah, c'est les méthodes américaines, hein. La coupure pub n'est pas annoncée, en fait.
Mais peut-être que je suis vieux jeu là-dessus, mais honnêtement, je trouve pas ça très correct vis-à-vis du public, quoi.
Alors, écoute, il reste encore un Nintendo Direct pour être déçu. Donc, voilà. On a encore une source de déception potentielle bientôt là.
Pourquoi être déçu alors que dans quelques jours, il y a Elden Ring qui revient?
C'est vrai, il y a un DLC qui arrive.
Et tu sais quoi, ils peuvent annoncer ce qu'ils veulent, ils peuvent décevoir ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fous, il y aura Elden Ring, donc voilà.
Bah tu vois, j'ai bien fait de pas commencer, comme ça je prendrai l'édition GOTY avec tous les DLC et hop.
Ouais, mais je crois que le DLC, c'est vraiment du endgame matériel, quoi. C'est-à-dire que j'ai repris mon perso qui était niveau 140 à la fin du jeu.
Ouais.
Ouais, mais niveau 140, mais en même temps, tu sais quoi, et c'est ce qu'il faut pour le finir. Et en plus, comme je jouais sans les cendres, Du coup, ça a ajouté vraiment un truc assez difficile. Tu sais ce que c'est que les cendres ou pas?
Oui, je connais. J'ai lu des trucs dessus.
C'est un truc d'avocation.
Pour faire appel à un truc d'aide, quoi. Voilà, c'est invoquer de l'aide.
C'est une invocation et tu peux invoquer un mimique de toi-même. C'est-à-dire, t'as un deuxième toi-même qui se bat avec les mêmes attaques et tout. C'est un peu chiqué, je trouve. Mais bon, tu sais quoi? Si le jeu le propose, c'est que ça doit. C'est qu'il y a une raison, quoi.
Si c'est autorisé, c'est que c'est pas interdit.
Ouais.
C'est pas tricher si c'est dans le jeu.
Exactement. Et écoute, je crois qu'on a fait le tour des jeux vidéo, non? T'as un truc à ajouter sur... Parce que moi, je joue, mais...
Vite fait, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle mini-console, une RG35XX SP de chez Ambernic. Alors, RG35XX, c'est un nom horrible.
Est-ce qu'il faut que je google RG35XX
SP.
SP, pourquoi? C'est la mieux, la SP?
Pourquoi SP? Parce qu'elle a le form factor d'une GBA SP. C'est une clamshell et qui, vraiment, à quelques millimètres près, a exactement les dimensions.
Clamshell, c'est la même chose qu'une GBA SP, tout simplement.
C'est la même chose qu'une GBA SP. À quelques millimètres près, elle fait la même taille, en plus.
Ça coûte combien?
Ça coûte, je l'ai payé $59 plus les frais de port.
D'accord.
Donc, au total, je l'ai payé $71. Et c'est donc une console portable.
Ah, c'est pas américain?
Rétro. Non, c'est chinois, tout ça. C'est donc une console portable rétro, basée sur un OS basé sur Linux. Je dis bien basé sur Linux parce que c'est un Linux un peu modifié, très modifié, en fait. Et c'est une chouette petite machine qui, pour faire tourner des vieux jeux rétro, mais aussi pour faire tourner des homebrew, fait très bien le boulot. Et pour le coup, elle tient vraiment dans une poche. Hein, la GBSP tenait vraiment dans une poche. Et pour l'instant, j'en suis assez content. J'avoue que je comprends pas très bien les espèces de querelles de clochers qu'il peut y avoir dans le milieu entre les gens qui préfèrent les consoles sous Android et les gens qui préfèrent les consoles sous ces systèmes basés sur Linux. Je pense que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais j'écrirai certainement un article sur cette RG35XX SP quand j'en aurai un peu plus profité, parce que là, je viens de la recevoir, donc voilà. Mais donc, c'est une autre machine qui va me permettre de faire descendre mon backlog. J'avais parlé de Faxanadu l'autre jour. En ce moment, je suis sur un autre jeu dont je parlerai aussi à l'occasion quand je l'aurai terminé.
Ah, Golvelus.
Eh ben oui, je suis sur Golvelus.
Non.
Si, je suis sur Golvelus.
Non, putain, j'ai dit un seul jeu au hasard dans l'univers et tu joues sur Golvelus.
Et je suis sur Golvelus.
Non, mais les gens vont croire que c'est que j'ai préparé. Non. En fait, pourquoi j'ai pensé à Golvelus? C'est que Golvelus est sorti en EGG. Sur Switch et on a fait un Sumimasen combo. Je le dis pour voilà maintenant vous le savez, ceux qui nous écoutent et qui suivent Sumimasen, on a fait un Sumimasen combo Golvelus avec Puyo et en utilisant vraiment le Golvelus de l'époque, quoi, tu vois. C'est ça qui est assez rigolo.
J'ai hésité entre Golvelus et Golden Axe Warrior parce que je voulais absolument faire un jeu un peu à la Zelda sur Master System. Je regrette de pas avoir fait Golden Axe Warrior.
C'est méga dur, Golvelus.
Ah ben je chie des larmes de sang, c'est horrible. J'utilise le save state comme un gros connard.
Oui.
Sans le rewind, c'est ingérable, quoi.
Et pour expliquer qu'est-ce que Golvelus et pourquoi il y a une importance pour nous, c'est que Golvelus était sorti sur Master System à une époque où il n'y avait que Zelda qui existait, et c'était la réponse que les possesseurs de Master System avaient à Zelda. C'est un peu la même chose. Et,
voilà.
Enfin, c'est un peu la même chose. C'est pas le même jeu, évidemment, mais ça ressemble.
Non, mais...
Ça ressemble un peu à Zelda, ça ressemble un peu à Is, voilà.
Mais il y a vraiment des idées intéressantes, mais mal fichues dans Golvelus, c'est-à-dire que tu as une vue de dessus à la Zelda où tu te déplaces dans un monde. Mais après, t'as des stages qui sont en scrolling horizontal, mais quasi obligatoire, et t'en as d'autres en scrolling vertical qui rappellent un peu un shoot 'em up, mais c'est très très bizarre.
Mais les scrolling horizontaux, c'est comme un shoot 'em up, c'est-à-dire si une fois que t'as dépassé le passage,
c'est raté, tu peux plus retourner en arrière.
C'est raté, il faut que tu retournes en arrière et ça te fait refaire tout le niveau en entier.
Ouais.
C'est dingo,
c'est difficile.
C'est dingo.
C'est difficile.
Et je me demande comment j'ai fait pour jouer à ça, et je vais te dire un truc.
Bah, on s'acharnait à l'époque. Hein.
Une fois, je me suis acharné, et faut savoir un truc, sur Master System, t'avais des codes.
Oui, t'avais pas de sauvegarde.
La sauvegarde était à code, et les codes, c'était genre majuscule Z, petit
c'était
X,
20 caractères, ouais.
Petit X, U majuscule, V majuscule, mais attention, U minuscule, tu sais.
Et les codes, il fallait les trouver dans la caverne, parce que chaque, on peut le dire, c'est un peu un Zelda où dans chaque écran, t'as une caverne qui est cachée. Tu sais qu'il y a une caverne cachée à chaque écran, et certaines te donnent justement ce code de sauvegarde.
Et il y avait une subtilité. Et oui, tu le sais sans doute, la Master System n'a que deux boutons.
Oui.
Donc, tu as le bouton option et tu as le bouton action. Et pour avoir, faire la pause, pour avoir le menu, il faut appuyer sur le bouton pause de la Master System.
Ah ouais, le bouton pause est sur la console.
Le bouton pause est sur la console. Et le bouton pause, il est à 1 cm, 2 cm du bouton reset.
Oui. Oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Je vois où tu veux en venir.
Toute l'après-midi, j'ai fait tous les donjons et tout. Je l'ai fait cash hein, parce que je me suis dit, jamais j'y arriverai avec le code. À chaque fois, je me gourre sur le code et tout ça. Et je jouais avec les pieds sur mon bureau. Et la Master System se trouvait dans le tiroir, là où tu mets, il y avait un tiroir. Et ma Master System se trouvait au-dessous. Et je me suis dit, en gros malin, je vais appuyer sur le bouton pause avec le pied.
D'accord, je vois, je vois.
Et là, je fais non ! Et j'ai tout perdu, tout perdu. Alors que j'étais à la fin, je volais par-dessus les arbres et tout. Genre, vraiment, c'était de la super. Mais Golvellus, et alors, juste si vous voulez voir ce que c'est.
Moi, j'en suis pas là. Hein. Je crois que je viens de battre le troisième boss là.
Si vous voulez voir ce qu'est Golvellus, on va bientôt se mettre en combo avec Puyo. Et je peux dire, heureusement qu'il y a les safe states, hein, parce que sinon, ça aurait crié. Hein.
Tu t'en rappelais un peu ? Parce que moi, je fais tout, je découvre en fait. Et au bout d'un moment, j'ai pris une FAQ parce que j'en pouvais plus quoi. J'ai très, très vite pris une FAQ.
Mais je me demande comment je faisais pour ces jeux. Je rejouais à Leinos 2, qui s'appelle Saturn Tribute. Donc, c'est un jeu comme sur Saturn, mais par contre, t'as un rewind, t'as plein d'options. Et infaisable.
Ah, bah ouais.
Sans le rewind, tu te fais dégommer.
Pareil, quand j'ai acheté la Contra Collection et j'ai rejoué aux anciens contrats. Ah putain, le contrat de la Mega Drive, je tiens pas 10 minutes, quoi. Ah, j'ai perdu mes 3 vies, terminé, quoi. Il est super dur.
Un jour, on fera After Eight que sur les jeux durs.
Ah bah.
Les jeux qu'on n'a jamais réussi. Mais avant ça, peut-être on va basculer sur nos rocos.
Allez, les recommandations.
Le bois ne rend pas les coups.
Très beau jingle.
Oh là là, c'est...
En plus, on a déjà fait des recos. J'ai recommandé Donald, t'as recommandé Sous la Seine.
C'est vrai, on a déjà fait des recommandations, mais c'est pour prouver qu'After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recos.
Je commence. Allez, je vais commencer avec un film qui est sorti sur Netflix hier aux USA et qui, a priori, en France, n'est sorti ni sur Netflix ni en salle, donc ça a l'air un peu compliqué.
Mais les plus malins qui ont des VPN, je précise.
Entre autres, ont pu donc voir le dernier film de Richard Linklater qui est réalisateur un peu légendaire, dont je n'ai malheureusement pas vu beaucoup de films, mais je me rappelle, j'ai découvert Linklater avec Scanner Darkly et ça m'avait mis une baffe à l'époque.
T'as vu Boyhood ou pas ?
J'ai pas vu Boyhood.
Alors, il est connu parce qu'il fait, des films en suivant les gens sur plusieurs années, ce qui est le cas de Boyhood. C'est genre, c'est un gamin qu'on voit, et on le voit gamin, et ensuite il devient ado et quasi adulte, quoi.
Ouais. Et puis il a fait une trilogie de films avec Julie Delpy et Tano, que la trilogie Before Sunset, Before Sunrise, et je sais plus comment s'appelle le troisième. Mais donc voilà, son nouveau film là s'appelle Hitman. C'est un film écrit à quatre mains avec Glenn Powell. Alors Glenn Powell, c'est un petit peu la nouvelle coqueluche d'Hollywood, qui a un peu une tête à claque, et c'est lui un peu l'antagoniste entre guillemets de Top Gun Maverick. C'est lui le beau gosse insupportable.
Il est très très beau, faut dire.
Mais il est très très beau dans Anyone But You avec Sydney Sweeney. Il est beau comme un dieu grec. Et là dans Hitman, il joue un professeur de philo pas crédible parce que le mec est beaucoup trop gaulé pour qu'il soit crédible en nerd que ses étudiants trouvent ridicule. Mais à ses heures perdues, il fait aussi informateur/agent infiltré pour la police. Et alors, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais c'est basé sur une histoire vraie. Alors, évidemment, passé un moment, le film invente des trucs. Et d'ailleurs, il se cache pas de ce qu'il a inventé parce que il rend hommage au personnage dont le film est inspiré à la fin en disant, bon, tout le passage avec le meurtre, tout ça, c'est nous. Mais globalement, donc, c'est l'histoire de ce type qui est donc, qui est entre guillemets agent undercover, on peut le dire, voilà. Et dont le job, c'est de faire arrêter des gens qui essayent d'engager un tueur à gages.
C'est très amoral, hein, faut le dire.
Voilà. Et tout le film, au début, en gros, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis de l'entrapment. C'est globalement des policiers qui poussent des gens à commettre une action illégale pour ensuite les arrêter.
Pour donner un exemple, c'est comme quand une fille en boîte de nuit va, elle se fait passer pour majeure, mais mineure, pour voir si le mec fait un move. Et s'il fait un move, paf, la police lui tombe dessus en disant, voilà. Et ça, c'est des cas qui arrivent aux États-Unis, c'est un truc.
Oui, oui.
Alors qu'en France, attention, c'est illégal. En France, ça serait considéré comme tu n'as pas le droit de...
Mais aux États-Unis aussi, c'est illégal l'entrapement. Mais là, il joue sur la ligne, en fait. Et lors d'une scène de procès, t'as un des mecs qui dit, ouais, non, c'est de l'entrapement. Mais là, il joue sur la ligne parce qu'en fait, ils expliquent que la personne qui va embaucher le tueur à gages a quand même l'intention de commettre un meurtre à la base. C'est pas la police qui lui suggère, en fait, si tu veux. Donc, c'est là-dessus, c'est là la ligne morale sur laquelle il joue. Et donc, au bout d'un moment, il rencontre une femme qui veut faire, qui veut embâcher un tueur à gages pour faire tuer son mari. Et son mari, tu comprends que c'est une ordure. Et bah, Glenn Powell, le truc, c'est que comme la meuf, elle est super jolie, il la convainc de ne pas le faire. Du coup, elle ne franchit pas la ligne. Du coup, la police ne peut pas l'arrêter. Et ensuite, il commence à avoir une relation avec cette meuf. Et c'est là qu'il y a des rebondissements qui commencent à se produire. Et moi, j'ai trouvé ça très chouette. Alors, je crois que toi, t'as été un petit peu déçu. Mais moi, c'est Marocco. J'ai vraiment passé un bon moment. Ça m'a donné ce que je voulais. C'est une sorte de comédie romantique avec un fond un peu, je vais pas dire thriller, mais un fond un peu dark.
Oui.
Mais on manque de comédie romantique chouette ces derniers temps. Donc, moi, j'ai pris.
Hitman, je me suis dit, ça allait être de la baston, un truc comme ça.
Ah, pas du tout.
Et en fait, pas du tout. J'étais pris. Je me suis dit, waouh, quand est-ce que ça commence, là, la battle? Et en fait, je me suis rendu compte que ça va pas être ça du tout. Et en fait, je me disais, mais où est-ce qu'on va? Et en fait, il y a plusieurs trucs qui m'ont dérangé. Par exemple, ça joue sur le fait que Glenn Powell, quand il met des lunettes, il est moche. Et quand les enlève,
c'est Clark Kent. Ah bah ça, oui, c'est.
Non, mais c'est vraiment le syndrome de la belle fille qui met des lunettes.
C'est il est trop bien.
C'est Chisolvat, exactement.
C'est ça.
Rachel Licoute.
Et,
voilà.
Et surtout quand tu vois ses élèves, une fois qu'il enlève les lunettes, qui font, oh là là, mais depuis quand il est aussi beau gosse,
depuis quand il est beau gosse comme ça, oui.
Il avait déjà les pectoraux sous la chemise, quoi. C'est absolument improbable. Il était déjà gaulé, quoi.
Et il essaye très fort de nous faire croire qu'il peut être moche et maladroit, alors que, en fait, bon, c'est, il y a un truc dans la manière de le jouer, mais il le joue très très bien. Il est très confiant en lui. Je trouve que les comédiens sont remarquables tous.
Et puis, il y a une belle alchimie entre lui et la comédienne principale qui est magnifique.
Critique numéro un d'Amandine, elle m'a fait « Dis-moi que ce film est écrit par un mec sans me dire que ce film est écrit par un mec. »
Et j'ai envie de dire «
deux mecs. »
Voilà.
Et deux mecs, mais c'est un peu la limite peut-être du film, mais en même temps, c'est vraiment réjouissant. C'est un peu... je peux comprendre, c'est le Furiosa de la rom-com des Glingos, parce que...
Ça passe pas du tout le test de Bechdel.
Oui, et à la fin, je me disais, mais il y a beaucoup de choses à morale qui se passent quand même. Hein.
Ah oui, non, c'est moralement indéfendable.
Et je me suis dit, ils vont s'en sortir, c'est pas possible. Parce que, et je pense que c'est ça, le fait que ce soit Netflix, c'est qu'un film de Major, ils auraient jamais laissé ça. Un film de Major, ils auraient fait, sauf si c'est Tarantino peut-être, mais
ouais.
Mais c'est pas Tarantino, Linklater quand même.
Mais ouais, non, moi j'ai trouvé ça réjouissant, j'ai passé un bon moment en fait. C'était pas vraiment ce que j'étais venu chercher. Comme toi, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'action que ça en fait. Et en fait, non, j'étais satisfait à la fin.
Je croyais vraiment que j'allais m'encanailler en regardant un blockbuster de l'été et vous dire, hey, les gars, faut le rajouter sur la liste. Pas du tout. C'est pas du tout notre blockbusterisation.
Mais du coup, toi, Taroko. Pour le coup.
Bah, ma reco, en fait, techniquement, c'est pas que j'ai pas de reco, mais en ce moment, je suis en train de refaire ma bibliothèque et on arrive à la fin. C'est un projet de longue haleine que tous les gens sur le stream, j'en parle en long, large, en travers. Et là, j'arrive à la fin au moment où on a, comment il s'appelle, il a fallu faire du tri colossal de bouquins. Et c'est pas une reco en tant que telle, mais c'est un truc et c'était très fatigant parce que physiquement, il fallait prendre tous les bouquins, il fallait les mettre dans des boîtes. Et quand je dis prendre tous les bouquins, c'est qu'il y a une centaine de boîtes quand même, tu vois. Et à la fin, je pouvais plus tenir les poches, je les sortais au sac poubelle. Enfin, tu vois, c'était vraiment beaucoup de taf que je me suis astreint. Et ensuite, il faut les remettre au fur et à mesure. Et là, par contre, j'y vais beaucoup plus relax. Hein. Regarde, je mets 6 bouquins, je mets 10 bouquins aujourd'hui, pas plus. Mais ça m'a apporté une espèce de plénitude par moment. Parce que j'ai retrouvé des vieux bouquins que j'aimais, des trucs que j'avais achetés et qui malheureusement sont tombés en bas de la pile et que j'ai jamais pu revoir. Et du coup, il y a rien de plus réjouissant pour moi que de retrouver quelque chose que j'avais perdu. Donc voilà, c'est pas que je fais Marie Kondo et tout, parce que si j'étais Marie Kondo, j'aurais jeté beaucoup plus. Mais Marie Kondo, moi, ces livres, ils m'apportent du bonheur. Marie Kondo, t'es complètement con, c'est pas du tout adapté à ma vie, à mes aspirations.
Tu sais que Marie Kondo, depuis qu'elle a des enfants, elle a un peu renié tout ce qu'elle racontait avant.
Ah bah voilà, Marie Kondo.
Ah oui, non, je plaisante pas. Marie Kondo, de nos jours, elle se rend compte qu'en fait, c'est bien ça truc pour les gens célibataires qui habitent dans des petits apparts, mais que dès que t'as une famille, c'est mort.
Et millionnaire en plus, tu m'étonnes. Mais Marie Kondo, elle sera tendue à la libération, voilà.
Non, mais écoute, bref. Elle a fait acte de contrition Elle a fait une Marie Kondrition. Voilà.
Bref, permets-moi cette fois-ci de ne pas recommander ni de bouquin, ni de film, ni rien. Alors que, tu sais quoi, j'en ai vu des films. J'ai même vu des films qui vont sortir bientôt sur les plateformes.
T'as presque recommandé un film que t'as trouvé mieux que Furiosa, plutôt.
Ouais, tu sais quoi, j'ai vu Challengers, ma grande surprise. Et j'en attendais rien. Et je suis vraiment très satisfait par Challengers.
J'espère bien, j'en avais dit le plus grand bien dans ce même podcast.
Et c'était mon film de l'après Cannes, donc c'est assez réjouissant. Et juste après, j'ai vu Atlas, donc avec, comment il s'appelle, avec
Jennifer Lopez.
C'est Jennifer Lopez dans une armor de Titanfall, dans des CG dégueulasses. Et j'ai vu un film qui s'appelle Abigail, qui était pas mal. C'est un film d'horreur. Et si tu connais pas, c'est comme From Dusk Till Dawn. Si tu sais pas de quoi ça parle, c'est pas mal.
D'accord, je sais pas de quoi ça parle.
Ouais, mais c'est...
Et Netflix a essayé de me faire regarder Atlas après que j'ai aimé Hitman, donc je sais pas quoi en penser.
Je crois que leur algorithme de recommandation est à l'ouest.
Ah, mais Netflix m'a aussi recommandé Rebel Moon Partie 2, alors que j'ai mis Rebel Moon Partie 1 en n'aime pas. Donc oui, leur algo, il est un peu pété, quoi.
Tu sais quoi, j'espère qu'on va regarder. On devrait faire Parle à mon Rebel Moon avec 6 heures de version longue.
Tu sais que Anna est sur Netflix.
Ouais, peut-être aux États-Unis, pas en France.
Ah, en France, je ne sais pas. Mais aux US, il y est.
T'es sûr?
Ouais, il y était hier.
Et alors, pourquoi tu vas pas le voir?
Parce que j'ai déjà vu en salle, Daniel.
Ah oui, c'est vrai. Ah, chez nous, non, il n'est pas sur Netflix, t'inquiète.
Bon, du coup, je vous laisserai acheter le DVD pour le Parle à mon Luc, alors.
Peut-être un jour, faudra le faire.
Ouais.
On vous remercie de nous avoir suivis. On remercie tous les gens qui donnent sur patreon.com/RPU. Et on vous remercie de nous suivre sur le site officiel ou alors sur vos applis de podcast dédiés. On vous le rappelle, Benji, en fin d'année, normalement, il vient à Paris. Donc voilà.
C'est... Normalement, oui. C'est ce qui est prévu. C'est pas encore fait, mais voilà.
On espère que, quel que soit le moment que ce podcast vous touche, c'est-à-dire que ça soit mercredi, donc le jour où il devrait sortir, ou alors les autres jours, ou alors les jours dans le futur, ils vous trouvent en bonne santé et qu'ils vous mettent la bonne humeur, en tout cas la bonne humeur qu'on a eue à le faire. Ça va, c'était bien?
C'est bien.
Ok, et donc voilà, vous pouvez nous retrouver où vous voulez, sur toutes les applis que vous possédez. On vous dit à très 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 bientôt, on vous embrasse très fort, et surtout, prenez soin de vous et des vôtres. À bientôt.
Et gros bisous, ciao.
Je sais pas ce qu'il va mettre en Coda, mais...
Ah oui, Coda, tu veux dire ce magnifique film qui a gagné l'Oscar?
Non, mais Coda, c'est le terme technique qu'on donne pour les bonus de fin, tu sais, des films Marvel et tout ça. C'est le terme technique dans la profession, on appelle ça un Coda.
D'accord, moi j'appellerais toujours ça une post-credit scene.
Oui, post-credit scene, bien sûr, c'est plus évident, mais dans le métier, genre, tout le monde dit Coda. Ah tiens, t'enregistres toujours?
Ouais.
Alors, qu'est-ce que j'ai vu que je peux pas...
Je note que t'as pas assumé Bad Boys 4 en reco. Hein.
Ouais, mais parce que c'est con à bouffer du foin, mais c'est mieux que le 3.
Ouais, d'accord. Ça, j'ai pas de mal à le croire. Alors, mais en même temps, tu sais que moi, j'ai détesté le 1, le 2 et le 3. Donc, pour le 4, faut que je me motive quand même.
Alors, en général, les gens qui restent pour les bonus, ils vont être contents. J'ai vu une comédie... Ah, ça, c'était pas bon. Hein. Je me suis endormi pendant tout le film. J'ai vu un... Alors, tu sais quoi, j'ai vu... Ça a été trop bizarre. Je m'assois. Il sort à la fin du mois, en plus. Je m'assois et en fait, je suis en train de regarder le film. J'ai dit, mais j'ai déjà vu ce film, en fait. Et en fait, c'est un remake d'une comédie russe.
D'accord.
Et c'est avec Kadmerad. Et c'est pas ouf. C'est pas ouf. Hein. Pas ouf du tout. Mais...
Tu veux dire Kadmerad?
Non, il n'y a pas de Ruskov là dans cette version.
Ah, dommage.
Mais il y a Clovis Cornillac.
Clovis Cornillac.
Et j'ai vu le fameux film dont on a vu le trailer avec... Et c'est nul. Et surtout, c'est quoi? Je déteste les gens qui jouent des comédies flics et tu vois clairement qu'ils ne sont pas documentés, ils ne savent même pas tenir une arme, quoi.
Mais est-ce qu'ils sont gentils avec les SDF?
Bon, tu connais la elle est pas beaucoup plus gentille que...
Je ne connais pas, en fait, moi.
C'est vrai que toi
on en a parlé tout à l'heure, moi, ça ne me parle pas du tout, en fait. Cette là, c'est...
On en reparlera, mais ce n'est pas dans les blockbusters de l'année.
D'accord. Bon, tant mieux, quelque part. Tant mieux.
Bon, allez, je vais couper.
Aïe!
Une production RPU.